Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Hier, je vous ai lu le début du roman de Maria Pourchet intitulé Western. Je vous en propose quelques extraits. Dans la rue, en fin de journée, au moment d'entrer dans le métro pour rejoindre l'école, les genoux d'Aurore avaient comme disparu. Elle a dû s'appuyer longtemps à la rampe ouvragée, évanouie debout. Avant de repartir, puisque ça marche encore, puisque quelque part dans la ville insupportable, un enfant l'attend devant un établissement privé. L'emprunt à 7%, c'est pour l'école, pour les loisirs aussi, pour les choses et l'électricité, mais surtout pour l'école. Elle aperçoit Cosma à quelques 20 mètres, en conversation avec la directrice. Elle sourit, elle pense. Celui qui l'abîme, qui le peine, qui le bouscule, je l'égorge avec les dents, rien à foutre. Elle peine à imaginer le motif de cette convocation adressée dans la journée par la directrice. L'enfant est un ange. Regardez-le, blond, fragile, avec son prénom Céleste. Tu le sais, toi, que mamie, elle est morte ? Elle n'est pas morte, mon chéri, elle est à la campagne, c'est très différent. Si, elle est morte. Elle me l'a dit cette nuit. Elle m'a réveillée avec du vent pour dire au revoir. Cosma est un de ces enfants qui annoncent les choses, qui sont prévenus. Pluie, départ de feu, départ du père, ils le savent avant, c'est comme ça. Aurore ne l'ignore pas, qui sent déjà se nouer son cœur gauche, l'air manqué. Maman est morte, on va bientôt lui téléphoner, un notaire ou quelque chose comme ça. C'est une heure plus tard, dégivrant sous l'eau chaude le sachet vert et le morceau blanc qu'elle échouait durablement à nommer, qu'Aurore est tombée de sa hauteur, dans le froissement de son joyeux kimono en viscose. Un son doux et franc de voile abattue, les mains gracieusement agrippées une seconde à la vasque pour rejoindre très vite le reste du naufrage, accompagné du non moins joli son que fait la peau humide en glissant sur la faïence. J'ignore si dans l'histoire poussive de la libération des femmes par elles-mêmes, toutes celles qui se sont écroulées sur le carreau de leur cuisine avaient autant d'allure. Elle s'est réveillée sur le dos, a goûté à un bref instant le merveilleux engourdissement de la claque. Cosma lui prenait le pouls, ainsi qu'il l'avait vu pratiquer à la télévision. Elle chercha à formuler une phrase propre à le rassurer sur la continuité de l'écosystème domestique. Elle allait se lever, le nourrir, le reconduire demain sur les lieux de l'instruction obligatoire et travailler, en avalant des cachets, pour maintenir leur relative indépendance matérielle. Le temps qu'elle parvienne à émettre un son, l'enfant n'était plus dans la pièce, mais occupé, côté rue, à appeler tous les noms sur l'interphone jusqu'à ce que quelqu'un, au troisième, réponde « oui ». Sur son téléphone patientait un message qu'elle écoutera le lendemain. L'hôpital de Villeneuve d'Aveyron qui dit « Votre mère est décédée », amputant l'annonce. L'intégralité du message serait « Votre mère est décédée », laissant vacante sa maison sur le causse de Cajard, Lot 46. Tandis qu'ici, gonflé de particules fines et d'amertume, vous ne supportez plus la cuisson latérale du ciel et du bitume. Laissez-vous faire.
Thank you.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Le même jour, et toujours dans la même ville, 9e arrondissement, 30 filles se présentent au premier tour pour l'entrée au Conservatoire d'art dramatique. Voici 2 heures que Musset, Racine, Molière, Feydeau, Claudel, Beaumarchais, Corneille passent par le corps de Bénédicte, Zoé, Naïma, Lotte, Frédéric, Marie, Prisma, Élise, Machine et les terrasses, les gonfles de génie, de monstruosité, de grâce ou juste d'effort, les éclatent dans l'illusion suicidaire de jouer le tout pour le tout. Musset, Racine, Molière, Feydeau les secouent, les dominent et enfin les projettent contre la table des jurés. 2 femmes et 5 hommes, comédiens et scénographes, méthodiquement attentifs, qui les ont trop vus ces empoignades débraillées de 3 minutes, entre fantômes et récitantes, archivues. Alexis Agner est l'un des 6 du bon côté de la table et de l'existence. Les théâtres de toute la chrétienté s'arrachent Alexis de septembre à juin, et lui, indécrottablement, frémit d'être celui qui dit non pas elle, encore une fois pour voir, oui peut-être, voyons le parcours libre. Qui change des vies ou pas, qui voit s'avancer vers lui les gracieuses, leur tête de celle qu'on va donner au lion. Alexis regarde profondément les filles, pas les prestations, les filles pour elles-mêmes. Elles savent alors ce qu'elles sont dans le regard de ce juré-là. Une enfant, ou un meuble, ou un détail dans un décor, un objet du désir, donc une femme, ou personne, ou une biche. Selon la série à laquelle elle est ainsi renvoyée, c'est pour la fille dégueulasse, injuste, grisant, ou déjà terminée. Je doute qu'il le sache. Alexis a conscience qu'il regarde, évidemment. Une conscience tranquille et satisfaite, d'autant qu'il est là pour ça, mais mesure-t-il à quel point son regard forme à l'instant l'idée qu'elles auront d'elle pour 3 minutes et même pour la suite? Non. Suivante. Ravissante. De Chloé, Alexis dira plus tard qu'elle portait sa beauté comme un vieux pull sans réfléchir, que c'était irrésistible. Elle concourt dans le rôle de Sonia, oncle Vania, parce qu'elles veulent toutes jouer l'amour. Je l'aime. Je regarde la porte, il me semble toujours qu'il va entrer. Alexis se redresse, son fessier glisse au bord de l'assise, genoux serrés, mâchoire tenue. Il aime tout ce qu'il voit, l'extraordinaire naturel de la position des mains, de la nuque, tout. Le texte précise que Sonia est laide et s'y préparent en général des candidates quelconques. Alors selon les jurés, la ravissante Chloé affecte envers l'atout plastique dans ce métier une indifférence trop démonstrative. Les petits effets d'humilité énervent tout particulièrement Elisabeth, la dame du ministère. Parce que c'est faux, parce que tout le monde le sait, la beauté force les gens, les décisions. Ce n'est pas un accessoire qu'on dépose et qu'on reprend. Allée suivante. Non, encore. Alexis conteste, il veut la revoir. Quasi certain d'assister à une adgénie, non commun, se dit d'un phénomène de planche tel qu'il en apparaît un par demi-siècle, l'équivalent esthétique d'une claque. Claque qu'il est bien le seul à recevoir. Sa note à Chloé sera la plus élevée de la matinée, mais personne ne le suit, l'occasion de lui montrer qu'il ne règne pas sur ce jury. Qui va nous sauver la matinée ? Qui physiquement n'adjanit pas non plus, mais qui pourra tout faire, Andromaque et Vernon Subutex. Suivante ? Non, déjeuner. Au sortir de la grande salle, Alexis accélère le pas, Elisabeth du ministère sur les talons, significativement familière avec ses « Attends-moi » et ses « Alex ». Ils rejoindront les autres plus tard au café. On les voit disparaître à l'angle de la rue Sainte-Cécile, et cette fois, Elisabeth entraîne Alexis, elle devant, lui derrière. J'en étais sûre. C'est bien son genre à l'acteur, se concentrer de bourgeoise, pas particulièrement belle mais lustrée, accessoirisant sans scandale son bras académique. le café voisin réunit les membres des autres jurys du conservatoire, les postulants passés le matin, qui resteront là jusqu'à ce que paraisse la liste des heureux élus au second tour. Aux tables du fond, les juges, comédiens sociétaires, dramaturges ou réalisateurs, se touchent, s'embrassent, confondent leurs verres avec une légèreté début de siècle, se serrent trop fort devant des élèves qui, dans ce monde bavard en forme de loge, la réussite, n'entreront souvent pas. Chloé est là, beau visage en éponge bourré de larmes, et d'une volonté scolaire qui va bientôt la pousser aux abords de la grande table pour demander au patricien à quel endroit elle a merdé. Elle veut comprendre. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ?» Elisabeth l'aurait claqué, parce que c'était ce matin, et qu'elle doit savoir depuis ses 15 ans, cette allumeuse, qu'elle ne possède pas un physique qu'on oublie en 2 heures. Moi, je pense qu'elle ne le savait pas, en effet. Chloé transportait vraiment sa beauté comme un truc à part qu'elle aurait pu oublier sur une chaise. Ça existe. Tous ont été aimables. Mercier, metteur en scène, lui a notamment donné des avis très utiles quant à son manque de verticalité, un problème général d'ancrage qui s'entendait jusque dans ses phrases. Elle ne les attaquait pas et souvent ne les adressait à personne. « Jouer, c'est être là, mademoiselle, pour dire quelque chose à quelqu'un. Sinon, c'est faux. » Alexis n'a rien dit, sûrement parce que rien ne lui venait, rien qui fût assez vif, assez impertinent. Il a attendu que le problème d'ancrage quitte la salle, passe la porte vitrée, rejoigne son vélo arrimé devant le restaurant et entreprenne d'y installer son absence de verticalité. Et il est sorti d'un coup pour aller lui parler. Tout le monde l'a vu. À l'intérieur, Mercier supposait en riant que Zagner lui proposait des cours de soutien. « J'aimerais vous aider », développait en effet Alexis. La suite se déroule 1 an plus tard.
Sur le corps. reste encore. Je crois qu'il m'en reste encore.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Un an plus tard, un mardi matin, on surprend Alexis dans son appartement, c'est rare. Une femme avec lui, mais celle-ci d'importance, la sienne, encore plus rare. Et ça ne va pas. Il est évident que ça ne va pas du tout. Alexis lui demande de répéter pour la dernière fois. Vraiment, c'est non ? Non. Quelques heures auparavant, Alexis avait demandé à Olivia de l'écouter jusqu'au bout et de ne pas chercher à comprendre, ce qui est beaucoup trop demandé en général. Olivia avait donc écouté Alexis s'effrayer à voix haute de l'arrivée de quelque chose d'hostile et encore peu défini. « Quelque chose va tomber », répétait-il, imprécis comme à propos d'une bombe, d'une pluie acide ou d'un avion. « Quelque chose, mais quoi, Alexis ?» soupirait Olivia entre lassitude et effarement. « Qu'en savait-il, grand Dieu ? Une vérité ou un mensonge ? Une attaque ? Une femme ? Internet ?» Il relevait des signes toujours plus nombreux. Les sous-entendus à propos du rôle de Don Juan qu'on disait lui allait trop bien. Cet anathème qu'Elisabeth lui avait adressé quand il l'avait quitté, t'es foutu. Les moyens de pulvérisation dont celle-ci disposait. Son nom à lui apparut dans une enquête à propos de l'indéracinable pouvoir blanc dans les équipements culturels parisiens. Tel regard dans tel dîner. Telle remarque quant à la jeunesse de ses conquêtes. Enfin, un sentiment permanent de danger, d'incapacité foncière à arrêter, le cas échéant, ce typhon qu'on appelle obligeamment l'air du temps, ajouté à un sentiment occasionnel de terminus et un écrasant besoin de repos, constituait un faisceau d'alerte encore mince et qui réveillait son instinct le plus affirmé. Donc pas l'instinct de reproduction ? Très drôle. Son instinct de survie. Il avait parfois pour lui-même peur de s'évanouir. Ce quelque chose de néandertalien, instinct majeur à l'origine de la survie de l'espèce, et qui jamais ne cesse de sentir et de veiller, la peur avait chez lui subi une inflation handicapante. Voilà, on parle de ça, de terreur et d'intuition. De cette irrationalité souveraine qui préside aux décisions et aux arrachements. Alexis avait ensuite évoqué en vrac un départ, un abri, des précautions, la nature. Pas exactement une fuite, mais des vacances. Il n'avait pas fait tout ça pour se prendre du plomb dans l'aile, tiré à vue. Bref, il avait demandé à Olivia de l'accompagner à la campagne, d'y profiter d'un très provisoire effacement. Dans l'éventualité d'une mise en cause, il lui demandait en outre de sourire avec lui sur les photos, accrochées ensemble au radeau conjugal. Donc, non. Elle avait ajouté « Tu perds la boule, mon pauvre ami. » Non pour le suivre, non pour continuer, non pour payer, non pour s'afficher. Non pour le soutenir, quand bien même quelque annonce ferait de lui publiquement ce qu'il est, dit-elle sans préciser quoi. Ce n'est pas le genre de femme capable d'insulter un homme qu'elle a aimé, même à bout. Non pour la photo, non pour entendre quoi que ce soit à propos des errances d'Alexis. Non pour prétendre qu'elle savait ce qu'il faisait l'après-midi de son corps dérouté, au service de la culture subventionnée le soir. Non pour imaginer avec lui de quels moyens de rétorsion sur une femme humiliée, puisque cette femme elle-même a depuis longtemps cessé de l'être, puisqu'elle s'en fout. Non pour l'aider à, comment dit-il, arrêter la machine, sans déconner. Et puis quoi encore ? Il s'est arrêté, lui ? Non pour participer. Oui, pour la voiture qu'il la garde, elle est, après tout, aussi vulgaire que lui. 25 litres au sang, des taches de sperme sur du cuir fauve. Te voilà libre, Alexis, et complètement en danger. Olivia tentait à présent de demeurer calme, toute sa colère résorbée, pour tenir le temps qu'il reste, une heure ou deux, avant de parvenir enfin de l'autre côté de ce moment atroce, en restant digne, selon l'idée dominante de la dignité. c'est-à-dire ferme, mutique. Non pour faire la folle, non pour lui griffer le visage, non pour pleurer. La chair très blanche de son front, ses poignets, le cou, le blond transparent des cheveux courts signalaient bien quelqu'un. Mais pour lui, elle n'était plus personne, c'est clair ? Cette fois, vraiment. Tu m'entends, Alexis ? Personne. Au revoir, Alexis. Combien d'accords avons-nous passé, toi et moi, pour combien de discordes ? Au revoir. Alexis a bien regardé le « non » en face, impressionné par ce côté complètement granitique que peuvent prendre ces femmes-là. Il n'était à l'instant plus rien dans ce décor qu'on l'invitait à quitter, et il s'est surpris à songer que c'était dégueulasse. Il avait quand même tout payé, la moindre toile, la moindre ampoule. Il n'a plus rien dit, ahuri d'être enfin quitté, c'était la première fois. Il a regardé chacun des vides que laissent les enfants qu'on n'a pas eus, faute de vouloir les balader à Montsouris, faute de pouvoir se permettre de dormir moins pour vivre moins, faute de chair, faute d'amour. Il a regardé sur les photos, dans les fauteuils, les formes manquantes des amis qu'on aurait gardés s'ils avaient eu les mêmes moyens. On les avait perdus dès lors qu'être ensemble est une question d'accès aux mêmes tables, même villa, même voilier, même vin, même plage. Il a regardé entre les meubles trop chers la succession des trous qui les entouraient, faute d'à peu près tout. Et il a compris pas mal de choses quant au vertige qui le prenait de plus en plus, sur scène et en ville, depuis quelques années. Enfin si, il a tout de même ajouté quelque chose. « Et donc, je fais quoi, moi ? J'attends qu'on me cueille ? Qu'on me bousille ? Je fais quoi, moi ?» Elle a répété un peu lasse « Toi, toi, toi !» Qu'il se démerde avec ses frayeurs crépusculaires et ses instincts paranoïdes. Il n'avait demandé à personne pour la bousiller, elle. Faire d'elle ce qu'elle était aujourd'hui, un reflet, un échec. C'était une femme qui pensait mordicus qu'on la faisait et qu'un homme pouvait l'échouer. La preuve s'était arrivée. L'homme, c'était lui qui méritait la porte. Et la porte passée, le jugement d'une société tragiquement adolescente, qui à travers un système punitif intériorisé, n'en finissait plus de se haïr pour ce qu'elle était, obsédée par l'amour. On peut, à présent, imaginer Alexis partir à son tour en cow-boy, dans l'aurore qui poudroie, au nom de cet arbitraire éternellement cinématographique du condamné d'avance, devancer les poursuites, ne plus répondre de ses actes. Où va-t-il ? Ce n'est déjà plus la question. Le héros de western est déplacement superlatif et libre circulation. Le sens n'est pas tellement dans la direction qu'il prend, mais dans le mouvement. J'ai lu, hier et aujourd'hui, le début puis des extraits de Western de Maria Pourchet. Elle entend par western un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision. C'est en effet ce que va faire Alexis à la façon des cow-boys. Quelle loi veut-il laisser derrière lui ? Qu'a-t-il fait pour redouter l'époque qu'il a pourtant consacrée ? Dans ce roman galopant, Maria Pourchet livre avec un sens de l'humour à la mesure de son sens du tragique une réflexion sur notre époque, sa violence, son rapport à la liberté et la place qu'elle peut encore laisser au langage amoureux, post-MeToo. Lors des pauses musicales, nous avons écouté « Run, Cried the Crawling » d'Agnès Obel, puis Martin Luminet « Revenir ». Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Samedi prochain à 18h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles lectures. Je vous souhaite une bonne semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.